Bonjour à tous, bienvenue pour la loi des séries. Vous le savez, comme chaque semaine, un face-à-face, 25 minutes avec une personnalité du monde des séries qui fait l'actualité. Et cette fois-ci, je vous emmène sous un tunnel effondré dans une voiture pour retrouver notre prisonnière de la semaine. Regardez.
Attention !
Madame ?
Oui ?
Pouvez-vous me donner votre identité ?
Je me souviens pas de mon nom.
Bonsoir Mélanie Bernier.
Bonsoir.
Je suis ravi de vous accueillir pour ce film unitaire pour les signatures OCS, Ciné plus OCS, Prisonnière, présenté au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Et ça va pas fort hein, dans ce film pour vous.
Heureusement, aujourd'hui ça va mieux.
Ça va mieux.
Il y a un an lorsque j'étais coincée dans cette voiture.
Bah voilà, une femme se réveille dans une voiture. Elle ne se souvient de rien, elle ne sait plus qui elle est. Il y a un mec à côté d'elle qui lui va encore moins bien qu'elle. Mmh. Et elle ne sait pas comment elle est arrivée là.
Elle ne sait pas qui elle est, elle ne sait pas qui est ce mec et elle ne sait pas pourquoi elle est là et si elle va s'en sortir. Parce qu'elle a la cheville coincée dans le moteur, donc elle n'arrive pas à se sortir de cette voiture. Elle n'arrive pas à joindre les
secours. Personne autour.
Personne autour, elle est coincée et donc on va être une heure et quart, une heure et demie, je ne sais plus exactement, avec cette fille à tout faire pour qu'elle retrouve la mémoire, qu'elle refasse son chemin et qu'elle puisse réussir à s'évacuer de ce Picasso.
On va apparaître quelques photos de ce film, mais on est toujours très très proche de ce personnage. Évidemment, c'est quasiment le seul personnage qui apparaît pendant tout le film. Alors, il y a des flashbacks où on va nourrir un peu le parcours qu'il a amené jusque sous ce tunnel, mais on est au plus près d'elle, quoi. Et il y a quelque chose de... Je trouve qu'il y a dans l'histoire, dans la façon de le faire, il y a quelque chose de très Hitchcockien. On a l'impression qu'on est vraiment à essayer de reconstituer des pièces du puzzle et à chaque fois qu'il y a une pièce qui arrive... Il y a un rebondissement qui nous prend, quoi.
Ouais, c'est un peu ça. Puis les flashbacks, ils arrivent quand même dans une deuxième partie du film. Donc, il y a la première partie du film où vraiment, on est avec elle comme si on était elle, quoi. Où on se réveille, on ne comprend pas vraiment où elle est. Donc, on va cheminer en même temps qu'elle. Et les flashbacks vont arriver. Et là, le spectateur, il rentre dans une... Pas une nouvelle histoire, mais dans une nouvelle temporalité de refaire le cheminement et de se dire « Ah, mais finalement, cette fille, et là, on va de surprise en surprise sur qui elle est réellement. »
Voilà, là, elle commence à attaquer la ceinture, les vitres, pour essayer de s'en sortir. Nous, on suit beaucoup depuis une dizaine d'années maintenant les signatures OCS, parce que c'est toujours la garantie d'avoir quelque chose de très particulier et de très différent. Et depuis quelques années, ils se sont lancés dans cette collection de films de genre.
Ouais.
Il y en a eu déjà beaucoup. Moi, je me souviens d'un qui m'avait vraiment marqué, qui s'appelait L'Invitation, avec Alison Paradis, où c'était l'histoire d'un enfant démoniaque dans une petite maison avec Hubert Delattre, je crois, aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on va justement accepter des rôles, voilà, comme ça, dans des films comme ça, où on sait, voilà, on n'y va pas pour le budget, on n'y va pas pour ce genre de choses, mais on y va pour l'ingéniosité de ce qu'on va y trouver.
Ouais, on y va parce que c'est quand même un peu des cadeaux du ciel, parce que ça... En fait, c'est des films, comme vous dites, par exemple Prisonnière, on l'a tourné en 12 jours, donc avec un tout petit budget, très rapidement, et ça crée une énergie, des films comme ça, où on y va chacun parce qu'on va pouvoir aller chercher quelque chose, généralement, qu'on n'a pas déjà fait. Donc, c'est une aventure intime, et challengeante pour chacun de nous, que ce soit les techniciens, que ce soit un réalisateur, que ce soit la productrice, par exemple Chloé, c'est son premier projet qu'elle a produit toute seule, c'est une jeune femme, elle a 32 ans ou 35 ans, donc c'est un enjeu pour elle aussi important. Moi, en tant que comédienne, on m'a jamais proposé
pas ce type de rôle, en tout cas.
Non, quand j'étais plus jeune, on m'a pas mal proposé de films de genre, mais parce que souvent, vous savez, c'est assez codifié, le film de genre. Donc, la jeune fille un peu mignonne qu'on va faire hurler, etc. Je sais pas, il doit y avoir un truc un peu excitant. Donc, à l'époque, je l'avais pas fait. Aujourd'hui, c'était pas un rôle, justement, dans ce cliché-là. Donc, c'était assez intéressant aussi pour moi. Et justement, ça, moi-même, ça casse un peu les codes de comédienne dans lesquels on a pu me voir jusqu'à présent.
La fameuse scream queen qu'on a, c'est-à-dire l'héroïne qu'il faut trucider et qu'on essaie de faire tuer comme dans,
ouais,
Scream ou dans Halloween.
Exactement.
John Carpenter, ouais.
Voilà, c'est ça. Là, on n'est pas du tout là-dedans.
On est à l'opposé même.
On est totalement à l'opposé. Et en même temps, je trouve que quand on voit des images du film, etc., il y a un truc tellement sensoriel, même dans les photos, etc., quand je les regarde...
Les couleurs sont très flashy.
Les couleurs sont très flashy, il y a un truc comme ça, tellement nature, etc., que pourtant, il en sort une forme aussi sensuelle, différente, que du quelque chose de beaucoup plus esthétique.
Tout à l'heure, je parlais du fait qu'il y avait des cliffs tout le temps dans, dans ce film. Dès qu'il y a un flashback, il y a un cliff qui nous renvoie et qui nous donne une autre version de l'histoire. Comment on tourne ce genre de film ? Est-ce que pour maintenir cette espèce d'introspection du personnage qui découvre les choses au fur et à mesure, on le tourne dans l'ordre ou est-ce que...
Comment on ça a s'est tout passé tourné, on a tout tourné dans l'ordre. Je pense que c'était... Alors, c'était... Ça qui était le seul truc simple de ce film, c'est que comme il n'y a qu'un décor, au moins, parce que souvent, ce qui fait qu'on ne tourne pas dans l'ordre, c'est la disponibilité des acteurs et la disponibilité des décors. Là, il n'y a qu'une actrice et qu'un décor. Donc, au moins, on a pu faire qu'en fonction de l'histoire. Et c'est ce qui nous a aidés, parce qu'en fait, on a évolué en même temps que ce que ce personnage découvre sur elle-même et de ses astuces pour pouvoir s'en sortir. Et c'était ça qui était assez étonnant, c'est que souvent, quand je finissais une journée de tournage, bon bah il est 19h, vous avez fini, vous lavez, hein, vous prenez une bonne douche parce que vous êtes vraiment cradoc, un petit verre de vin, vous passez votre nuit et le lendemain à 9h vous dites purée, il faut que je reprenne exactement à l'endroit là où j'en suis, qui souvent donc est un moment tragique pour moi, en larmes ou en douleur, etc. Et finalement, dès que j'arrivais dans cette voiture, je retrouvais cette émotion-là. Et c'est assez joli pour moi quand j'ai vu le film deux fois. Je me dis, waouh, c'est génial parce que même moi, j'arrive pas à savoir où j'ai repris. Donc la continuité fonctionne super bien.
C'est jouissif pour une comédienne, justement, d'être dans ce genre de rôle, pardon, mais... sale, c'est-à-dire dans le sens où on peut se rouler dans le truc, où on peut casser son image, où on peut faire plein de choses, être une vraie héroïne, comme on le donne souvent aux mecs, mais aux femmes, dès qu'elles sont dans des rôles comme ça, il ne faut surtout pas qu'elles en montrent trop, il ne faut surtout pas qu'elles soient trop sales. Là...
Ouais, là, non, justement, bah, c'était super, et surtout pour moi, parce que je vous dis, j'ai eu peu l'occasion qu'on me propose ce type de rôle-là, et alors, franchement, mais... Je sais pas, il y a même une scène où je vomis et j'adorais le faire, j'étais trop contente. C'est très bizarre, mais en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est apparenté au jeu, mais pur plaisir du jeu de très enfantin, quoi.
Bien sûr.
Toutes les scènes où je m'extire de la voiture, où vous regardez, bon, ben voilà, enfin, je devrais même pas le dire, mais il y a des scènes
enfin,
un peu de...
On doute bien qu'elle va finir par un moment
on
donné.
Espère pour elle, quand même, mais en tout cas, de douleur, etc. Mais à jouer, je me suis marrée, c'est que des effets spéciaux et tout. Et moi, j'ai une copine à moi, actrice, qui fait plein de formations, de cascades, etc. Et elle, son rêve, c'est de jouer toujours des rôles un peu comme ça, de flics qui tombent, etc. Et moi, je dis, oh, merde, pas du tout. Moi, je rêve que de jouer de reine, etc. Et depuis que j'ai fait prisonnière, je comprends
que...
ce pourquoi, en fait, elle est attirée par ce genre de rôle. Parce qu'effectivement, d'être totalement dans le corps, dans le physique, dans l'espèce de lâcher prise comme ça, c'est extraordinaire et c'est un des rôles où j'ai plus rigolé, quoi. Je me le suis plus amusé.
Évidemment, on va pas spoiler, mais c'est un personnage qui est fascinant parce qu'elle est beaucoup plus que ce qu'elle laisse apparaître au début de l'histoire. Là encore, je prends des précautions pour ne rien dire et ne rien divulgâcher.
Moi, j'ai déjà un peu spoilé le truc. Mais
bon. Non, mais là, ça allait encore, mais je pourrais faire pire. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, on va de surprise en surprise avec elle et que... C'est un personnage qui est multicouche.
C'est un personnage qui est multicouche et le titre du film que j'adore, Prisonnière, est très intéressant parce qu'il va se révéler vraiment à plusieurs...
pas être que de la voiture.
Elle n'est pas que prisonnière de la voiture, elle est vraiment prisonnière aussi de ce qu'elle est. Et donc du coup, on va comme ça découvrir plein de choses avec elle. Et c'est pour ça que je crois que le film, et d'ailleurs plus il avance, plus on va, si les gens s'accrochent au début, parce que le début voilà, est un peu lent, on est là en train d'essayer de comprendre en même temps qu'elle. Et après, on va aller, comme vous dites, de cliff, là, enfin, de rebondissement en rebondissement.
et jusqu'à la fin, c'est-à-dire que moi, c'est ça qui m'a plu. Il y avait dans... Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, dans les années 90, il y avait des traditions de petits thrillers comme ça, qui font pas trop de bruit, qui passent sous les lignes radar. C'est pas des grosses productions, c'est pas des gros trucs. Mais alors, quand vous mettez le pied dedans, vous êtes saisi par ce qui se passe parce que le rebondissement, les personnages, tout ça, vous prennent jusqu'au bout. Et en règle générale, ils ont tous la même particularité. C'est le cas de Prisonnière, c'est que même la fin vous arrache le truc en vous disant « Mais même là, il n'y a pas de bonne fin, entre guillemets. »
Non, il n'y a pas de bonne fin. Non. clairement, non. Et j'espère justement que les gens vont pouvoir aller jusqu'au bout parce que le film, il est assez surprenant pour ça.
j'adore ce plan qui est l'affiche un peu de, du film, mais de prisonnière, parce que c'est vrai que on dit souvent que les yeux sont le reflet de l'âme. Ben c'est un peu vrai pour ce personnage là.
Pour ce personnage complètement.
Pour ce personnage là. Il y a une quelle est votre séquence préférée? Alors moi j'avoue que j'ai adoré la séquence quand on commence à avoir les effets du de la piqûre
de la,
insuline.
L'insuline.
Est-ce que je le fais? Est-ce que c'est pour moi? Mais si je le fais et que c'est pour moi, je meurs. Enfin, j'ai trouvé ça génial comme trouvaille.
Bah ça, c'est vraiment la trouvaille de la scénariste, hein, Magali. Non, moi, c'est pas du tout ma scène préférée. Je sais, en fait, moi, j'ai l'impression que c'est qu'une scène, le film, parce que, comme je vous dis, il y a pas vraiment de différence. Mais je crois quand même que... Mais sans dévoiler le film, il y a une scène avec un petit camion qui se met à sonner,
ah oui,
où elle est vraiment très, très épuisée. Et j'ai adoré jouer. j'ai adoré jouer ça. Il y a tout un... En fait, tous ces passages, là, vous voyez cette photo avec la chaleur, etc. Et je me souviens du chef-op qui était là, mais bombardez-la d'eau, mettez-lui de l'eau. Et le mec, il s'est dit, il y en a trop. Et étonnamment, en fait, on en avait beaucoup besoin. Et ça, c'était génial. Vous voyez, j'avais de la glycérine, on me foutait de la flotte. C'était... Ça me mettait complètement dans un état. C'était très agréable. Faire l'extincteur, j'ai adoré, même si je me le suis... pris dans l'œil, il y a eu un souci avec, avec l'accessoiriste, et donc du coup je m'en suis pris dans l'œil, mais voilà, c'était assez, tout ce qui était un peu physique, j'ai adoré le faire.
Et c'est vrai que moi qui vous ai vu dans d'autres rôles, où vous êtes toujours
impeccable,
on va voir justement tirer une photo, parce que c'est l'autre actualité, on va vite fait en parler, mais c'est l'antithèse d'Aaron, c'est-à-dire que quoi qu'elle fasse, elle est toujours
impeccable.
Ses petits talons.
Elle a des petits talons. Elle a un petit rythme de démarche très très rapide, ouais, très pépette, etc. Elle parle très 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 vite, très hachée. La pensée est hyper rapide. On est à l'opposé du personnage de prisonnière.
Quand je vous ai vu dans Daron, je me suis dit, mais en fait, Mélanie Bernier, il faut lui proposer, je sais pas, une saison 3 de Clara Scheller ou un truc comme ça. Vous avez un truc pour faire l'anti-héroïne de comédie romantique comme on a envie de les voir en France et comme on en voit peu. Et je me dis que ça vous irait super bien, parce qu'elle a un petit peu ce côté-là, je trouve,
ouais,
dans Daron.
Exactement, le côté un peu... Mais en plus, pour moi, c'est très jouissif à jouer. C'est-à-dire que je me balade. C'est pas que je me balade, mais c'est que... Il y a un côté exacerbé de ce que je peux être dans la vie que j'adore faire.
On l'a vu, même au point presse, vous êtes entière et vous vous donnez totalement. C'est ça qui est agréable. On va ouvrir un peu l'album photo de votre, un petit peu de votre parcours pour replonger un petit peu dans ce parcours multiple. C'est notre partie qui s'appelle Replay. Et c'est vrai qu'on l'a dit, Mélanie Bernier, vous avez incarné beaucoup de personnages au cinéma ou à la télévision. On en a sélectionné quelques-uns. On va voir une première photo.
Alors ça, c'est Marie Gillin et Fabrice Lucchini.
Mais c'est dans ce film-là que vous êtes, parce que c'est compliqué de trouver des photos avec vous dedans très jeune.
Ah oui, j'en ai moi, mais peut-être
et
que...
C'est le film des années Barnier et ses petites contrariétés,
Barnier,
c'est ça,
et ses petites contrariétés de Bruno Schisch, c'est mon premier film. Je dois avoir
4
en 2000. Ouais. Ouais. Donc, vous voyez, j'ai tout juste 15 ans. Je suis en troisième au collège. Et je joue la fille de Fabrice Lucchini et Nathalie Baye. Et c'est mon premier rôle au cinéma. Et c'est un film forcément mémorable à tout point de vue pour moi.
Ça a marqué votre début de carrière, mais en même temps, ça revêt une importance encore aujourd'hui.
Ah oui, les premiers films comme ça. En plus, vous voyez, j'étais quand même face à des acteurs qui n'étaient pas n'importe lesquels. Et j'ai été assez, je me souviendrai toute ma vie de Marie Gillin, qui avait commencé très jeune aussi avec Fabrice dans Le Bossu, et qui était venue me voir. Et je me souviendrai toujours de ses mots aussi assez rassurants. Elle avait vu en moi la jeune fille qui débarquait quand même. Je ne faisais pas du tout partie
de ce milieu,
de ce métier, etc. Et voilà, c'est des bons souvenirs, mais ça avait été quand même marquant.
On était un peu aussi au début de sa carrière, il y a 5-6 ans avant, elle était dans l'incroyable film de Tavernier, La Pas.
Complètement.
Elle était dingue dans ce
film. Mon perso héros, enfin moi c'est...
Mon perso héros, ouais.
C'est marrant parce que je sais pas, je sais pas combien d'années on a de différence, mais c'était vraiment mon héroïne. J'étais tellement heureuse de pouvoir tourner... avec mon premier film, c'est un casting de dingue quand même. Ouais. Nathalie aussi, qui avait une fille, Laura, Smet, donc j'avais le même âge que sa fille. Voilà, donc il y avait quelque chose comme ça.
Une belle génération de comédiennes, en tout cas, qui ont parsemé après la télévision. Photo suivante.
Ah oui, bah alors là aussi, ça c'est donc Tony Marshall, avec qui j'ai travaillé deux fois.
Vénus Beauté.
Vénus
la
Beauté.
La série pour Arte.
Ouais, alors c'est Vénus et Apollon, la
Vénus
série,
et Apollon, pardon,
qui est adaptée de son film Vénus Beauté. Et donc moi, je reprends... Donc, on a tout un peu Maeva Pasquali, c'est Mathilde Seigné dans le film. Enfin, voilà, on reprenait tous un peu les personnages du film. Et moi, je reprends un peu Audrey Tautou, entre guillemets, enfin, l'archétype des personnages du cinéma. Donc, ça, c'est 6 mois de tournage. J'ai les résultats de mon bac sur ce tournage, je me souviens. Et c'est l'aventure, quoi. Je débarque à Paris parce qu'on tourne pendant 6 mois ou 9 mois au studio de Brie-sur-Marne. Et j'ai 19 ans.
C'est le studio de la FCFP.
Ouais, exactement. Donc, cette blouse que j'ai portée tous les jours est pareil. Là, je suis vraiment dans un truc où ça devient un peu mon premier... Enfin, avant, je suis quand même au lycée, je suis en Touraine,
c'est un vrai travail.
Chez mes parents. Là, voilà, j'habite à Paris et c'est très dur. C'est un tournage, je ne vais pas vous mentir, très difficile pour moi. Tony était une femme...
exigeante.
Très exigeante. Et voilà, j'arrive vraiment dans le métier. Voilà, ça a été un tournage éprouvant et assez merveilleux avec ces actrices avec qui on s'est divinement bien entendu. Mais voilà.
Comment vous choisissez vos rôles quand on vous fait des propositions? Est-ce que vous êtes du genre à se dire « j'ai envie de faire et donc j'accepte » ou est-ce que voilà, vous avez une exigence et un regard sur les rôles qu'on vous propose?
Bah alors là, à cette époque-là, juste je passe un casting et je suis choisie et c'est incroyable. et Barnier, ces petites contrariétés, c'est pareil, c'est mon premier casting. Donc selon où vous en êtes, aujourd'hui, par exemple, je suis à un moment de ma vie et de ma carrière où on me propose des rôles directement et où je passe encore des castings. Mais je ne suis plus jamais choisie en casting. C'est terrible parce que j'ai été une actrice qui a fait beaucoup de castings, qui a été beaucoup choisie en casting. Et maintenant, quand je passe des castings, on ne me choisit plus, donc je ne sais même pas pourquoi je continue de les passer. Je pense que les gens me connaissent et donc du coup, en fait, quand ça veut dire qu'ils ont un doute, ouais. Je ne suis pas vraiment leur personnage, ils veulent me voir en essai. Je me raconte un peu ça comme ça parce que les films que je fais maintenant, c'est souvent ceux qu'on m'a proposés, quoi.
Autre rôle important, on est toujours en télévision.
Oui, Marie Bénard.
Marie Bénard, l'empoisonneuse avec Muriel Robin, qui est transformée dans ce film-là. Ça a été un rôle marquant aussi dans votre carrière.
Très marquant parce que ça a été un énorme succès. C'était l'époque de la télévision.
À 9 millions et 10 millions, oui.
Ouais, je crois qu'on avait fait 13 millions, il me semble.
Oui, totalement.
13 millions pour Marie Bénard. Je crois que je ne réalisais pas du tout. Et alors ça, c'est assez intéressant parce que ce film-là, c'est pour TF1. Et ensuite, TF1 me propose beaucoup de choses. Mais moi, je décroche le film de Jean-Jacques Haneau, Sa Majesté Mineure. Et là, il y a deux pans, quoi. C'est l'histoire de la vie de tous, quoi, des rencontres. Et du coup, je pars vraiment faire beaucoup plus de cinéma. Alors que j'aurais pu faire des rôles dans beaucoup de séries françaises, etc. Et finalement, c'est le cinéma qui va s'orienter vers moi, alors que j'avais fait un succès énorme à la télévision.
Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que la carrière, elle prend une couleur particulière à partir du moment où on décide d'ouvrir une porte plutôt qu'une autre. Et,
Et
de se dire, voilà, je deviens soit une grande actrice de télévision au risque de me couper du cinéma et du théâtre parce qu'on sait comment c'est cloisonné, ou alors je bascule...
C'est ça. Mais c'est aussi par Marie Bénard, c'est Patrice Lecomte. C'est ma rencontre avec Patrice Lecomte qui est tombée sur ce téléfilm et qui appelle mon agent et qui dit, je mets en scène une pièce au Théâtre de l'Atelier. Et j'ai vu Mélanie Bernier dans Marie Bénard et je voudrais lui proposer le rôle. Incroyable, quoi. C'est Patrice Lecomte comme ça. Et du coup, après, j'ai fait Maigret avec lui. Enfin, voilà, ça a été une de mes grandes rencontres aussi de cinéma.
C'est la grande époque aussi. Je crois, juste avant Marie Bénard, il y avait eu Michel Serrault qui avait fait Dominici, je crois, sur TF1 aussi, dans ses grandes adaptations
des
faits
divers. Ouais.
Et puis, dans les années 90, on avait Christophe Malavoy qui avait fait Guillaume Sesnec. C'était des grandes reconstitutions de faits divers qui marchaient très, très bien à la télévision. Capture d'écran suivante. C'est un clip ?
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Le clip de Renan
Luce. Ah, c'est le clip de Renan Luce. Ah, c'est marrant. Oui, c'est le seul clip que j'ai fait. Ça s'appelait La fille de la bande.
La fille de la bande, oui.
J'adore.
Complètement déjanté.
Ouais.
La fille qui est là, qui fait les photos, qui est la fille qui vient prendre les photos dans cette bande de copains et tout.
Ouais,
et
c'est
je trouve
ça.
que le clip est vraiment très chouette. Je le connaissais pas, j'ai découvert en reparcourant un peu votre film. Et j'ai trouvé
Il
ça
faudrait
dingue.
que je le revoie d'ailleurs, ce clip. C'est pas un peu années 70?
Un petit peu, ouais. Et puis
Ouais.
il y a ce côté un peu. Oui, avec ses petites lunettes blanches marquées.
Ouais.
Ouais, très très sympa.
Très sympa. Et Renan, super rencontre
Mais là aussi, au début de
aussi.
votre carrière, là, pour le coup, on est.
Ah oui, je sais pas, moi j'ai l'impression que je suis un peu plus. Ouais, j'ai déjà 10 ans de carrière à
Ah,
ce
peut-être,
moment-là, hein,
putain,
je
c'est
crois.
possible, c'est possible.
J'ai
Faudrait
des.
que je
Ouais.
retrouve la date. Faudrait que je retrouve la date. Évidemment, ça fait partie du parcours des comédiens de faire des clips. On en fait plus ou moins, et après, on choisit d'ouvrir une porte. Et vous, elle vous a emmené vers le cinéma. Elle vous a aussi emmené, alors ça a été ma grande découverte, vers une autre activité que les comédiens font peu, ou pas, ou beaucoup. On va voir un petit extrait vidéo cette fois-ci d'une bande-annonce. Regardez.
Sauf Nadia. Nadia, elle est tellement belle que c'est elle que je veux me marier avec plus tard.
Tu vas me lâcher le slip, oui?
Bon, le problème, c'est que c'est quand même une fille.
Ça.
Le doublage.
Ouais.
Vous n'en avez pas fait beaucoup, hein?
Non.
Mais Titeuf, le film, où vous
Ouais.
faites Nadia. C'est pas une bonne expérience? Ça vous a pas plu? Qu'est-ce que. Ou.
Non, pas du tout. C'est parce qu'on m'en.
On vous en propose pas parce que vous avez pour le coup un timbre de voix hyper intéressant, je trouve, pour le doublage.
Ben, j'ai un timbre de voix très intéressant, mais du coup assez particulier, donc il colle pas
À tout le monde.
à tous les personnages. Donc j'ai fait Nadia de Titeuf. Waouh, Titeuf, je t'adore. Qui a une voix un peu comme ça. Et j'ai fait Morticia quand même, dans la famille Adams aussi. Donc là, on est sur
Autre chose.
autre chose. J'ai doublé un film pour Patrice Lecomte, qu'il a tourné aussi en anglais. Mais après, je fais parfois un peu de pub, quoi, aussi. Mais en doublage, c'est un univers assez fermé, où il y a vraiment des acteurs de doublage et qui font vraiment leurs comédiens, etc. Et moi, le doublage que j'ai fait, c'est que pour des dessins animés, quoi.
Ouais, et pourtant, on aimerait vous entendre parce que c'est vrai que cette voix un peu cassée, je pense que ça correspondrait tellement bien à plein de rôles, ce serait effectivement hyper intéressant. Quel est le prochain défi que vous aimeriez vous lancer? Alors là, on a vu que vous avez pris un plaisir avec Prisonnière à jouer les femmes fortes, les femmes d'action, à vous rouler dans ce tunnel enfermé et tout. C'est quoi la prochaine étape pour vous? Prochain défi?
En vrai, j'y pense pas trop comme ça. J'ai l'impression que c'est une fois que les rôles arrivent où je me dis bah, c'est le moment pour moi de jouer ça. Je suis plutôt dans l'instinct. On peut avoir plein de désirs, mais en vrai, je pense que les comédiens et les comédiennes, on a plein de désirs de jeux différents. Donc, j'ai pas un rôle. Enfin, moi, j'ai toujours dit, je rêverais de refaire. Moi, j'aimerais beaucoup faire un film. Au 15e siècle, c'est une
En
période
costume.
en costume, c'est une période de l'histoire que j'adore. Je suis tourangelle, donc j'ai aussi beaucoup vécu. Enfin, c'est beaucoup, voilà, la Renaissance,
Le début de la
etc.
Renaissance, oui, évidemment.
Donc voilà, je suis très imprégnée de ça. Ma mère a travaillé dans le tourisme, etc. Donc c'est toujours un univers dans lequel j'aimerais aller. Alors si je pouvais jouer un peu une reine, mais en même temps méchante ou voilà, un truc comme ça, j'aimerais bien cumuler le côté héroïne, mais
La
machiavélique.
légende sulfureuse.
Voilà, ça, ce serait un peu mon petit dada.
Ouais, en fait, vous avez envie de jouer une méchante,
Ouais, j'adore.
en fait.
Franchement, les méchantes, je trouve que c'est un peu comme dans Prisonnière. C'est des rôles où vous pouvez. Enfin, non, c'est pas vraiment comme Prisonnière, mais c'est des rôles où vous pouvez, mais alors, vous
On peut se lâcher.
amuser, vous pouvez lâcher. Alors, après, il ne faut pas que ce soit too much, il ne faut pas aimer jouer. Le danger, il ne faut pas aimer jouer la méchante. Mais par exemple, dans le film de Patrice Lecomte, Maigret avec Gérard Depardieu, je joue une fille affreuse, abominable. Et comme c'est en plus les années 50, donc c'est une esthétique assez particulière, etc., j'ai adoré faire ce rôle-là.
Bon, embauché là pour jouer une méchante au 15e siècle et une reine de préférence,
Ouais, c'est très
ce
précis, hein.
serait très précis. Le CV, ça va être compliqué à le remplir,
Ouais.
mais on ne désespère pas. Bah, puisqu'on parlait de genre, je vais attirer votre attention pour terminer cette émission sur une série qui vient de démarrer au Québec. Parce que c'est vrai que le Canal+ a fait parler beaucoup d'eux il y a quelques mois avec la série Empathie qui a été diffusée, qui a beaucoup fait parler. Et là, la même plateforme qui a proposé Empathie vient de sortir il y a quelques jours une nouvelle série qui s'appelle Dérive. La bande-annonce, je vais vous la présenter dans un instant, mais les épisodes vont sortir toutes les semaines sur la plateforme. Vous allez voir, là encore, c'est une signature très particulière, une ambiance et une esthétique là aussi très spéciale. Ça s'appelle Dérive et c'est sur la plateforme Crave depuis le 13 novembre dernier. Regardez.
Major. J'ai peur que cette erreur nocturne revienne.
Ouais, moi aussi.
Regarde, je sais que t'aimes pas ce qu'on en parle, mais ça fait un bout que tu devrais être suivi par un psy.
Comment je peux savoir que vous allez pas me manipuler?
Faut me faire confiance, monsieur Major. Je sais ce que je fais. Laisse mon fils tranquille.
Ça confirme qu'il y a encore une vérité enfouie que tu soupçonnes, mais que t'es pas prêt à accepter.
Si Joël Crête essaie de te nuire, il va me trouver son chemin.
On n'a pas tout dit à la police.
Il y a un monstre en dedans de toi, là.
À quel point votre musique est-elle importante pour vous?
Aussi importante que de respirer.
Ils savent faire, les Québécois, avec cette série d'un prodige du piano qui se produit dans toutes les plus grandes scènes du monde entier et qui un jour découvre sur le sol de son appartement une partition annotée qu'il va jouer sur scène. Et à partir du moment où il la joue sur scène, ça a l'air de déverrouiller quelque chose dans son inconscient et ça fait remonter des terreurs nocturnes qu'il pensait avoir annihilées par le passé. Et à partir de là, ces terreurs nocturnes vont devenir de plus en plus envahissantes. Et surtout, c'est le visage qu'il a dans ces terreurs nocturnes qui sont absolument saisissantes, parce que le prodige du piano, le mec un peu bien sous tout rapport qu'on a envie de côtoyer, devient une espèce de monstre patenté la nuit, se surprenant à des crises de violence inouïes, et au point qu'on se demande si le visage qu'il a dans la journée n'est pas une façade et qu'il a enfoui ces secrets-là au plus profond de son inconscient. Il y a 8 épisodes pour cette première saison de Dérive, pour avoir eu la chance de voir les 2 premiers, c'est extrêmement redoutable parce qu'évidemment, il se retire de la vie pour essayer de s'en sortir et il va rentrer dans une mystérieuse clinique menée par une femme, une scientifique très étrange dont les parents de ce jeune homme font tout pour l'en éloigner parce qu'elle pourrait révéler les secrets de cette famille enfouie depuis des années. Ça sera peut-être la prochaine série qu'on verra dans quelques mois sur Canal. En tout cas, après Empathy, Crave propose encore une fois une série à un ton singulier. Ça s'appelle donc Dérive, et c'est le nom, justement, si vous l'avez vu dans la bande-annonce, de la partition que joue ce pianiste. Voilà, une série incroyable en 8 épisodes. C'est disponible sur Crave et bientôt chez nous, je l'espère. En attendant, on se précipite pour aller voir Prisonnière, présentée au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle, que moi j'avais adoré. J'avais trouvé vraiment ça bien. On est pris en apnée pendant 1h20, et ça marche et ça match à chaque fois. Et puis, on a envie de vous voir dans plein de rôles, parce que ce soit dans Prisonnière ou dans Daron, et dans plein d'autres rôles, je trouve que vous êtes une des très très belles comédiennes de la télévision de ce moment. Donc on a envie de vous voir encore plein de fois.
Bah merci, ça me fait très plaisir.
Merci à vous. C'est sur Ciné Plus OCS, en tout cas encore une fois, Ciné Plus Frisson pour Prisonnière, à voir, à revoir et à re-revoir. Merci beaucoup Mélanie Bernier d'avoir été avec nous. Merci aux équipes de Canal et notamment à Isabelle d'avoir permis à cette rencontre de se faire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de la Loi des séries. Merci à tous.